Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Hébreux chapitre 12 et le message de ce soir sera à partir des versets 14 à 17, donc de Hébreux chapitre 12. J'étais en train de lire, bon ça fait peut-être 2 ans maintenant, un livre qui a traité dans quelques-uns des chapitres de comment les chrétiens des premiers siècles dans l'Empire romain ont vécu leur foi et surtout leur conversion. Et c'était un regard sur les difficultés que les chrétiens rencontraient. Et l'auteur a utilisé une image que pour moi était très utile. Il a dit être chrétien dans le monde romain, c'était comme vivre en étant serré par un étau pendant toute sa vie. Et vous vous souvenez, hein, les étaux, qu'est-ce que c'est? Bon, on en a un juste là, d'accord? C'est ou ici. On a 2 morceaux de bois, c'est un outil avec 2 morceaux de bois ou 2 morceaux de métal qu'on tourne pour serrer un objet et le bloquer, le coincer pour pouvoir le travailler. Et il disait, bon, pour les chrétiens à Rome ou dans d'autres endroits de l'Empire, c'était ça la vie de foi. C'était en train d'être constamment serré dans un étau. Et une des mâchoires de l'étau, bon, c'est la persécution. Et c'est toutes les souffrances que les fidèles devaient endurer pour la foi. Et nous avons vu, par exemple, la semaine passée, certaines des choses que les chrétiens qui ont reçu l'épître aux Hébreux ont dû endurer. Le mépris, la violence, le rejet, les moqueries, la privation de biens et bien d'autres choses. Et l'auteur aux Hébreux a même dit à ces chrétiens, vous n'avez pas encore tout vu. D'accord? Il faudra encore endurer la souffrance. Et malheureusement, ils n'étaient pas les seuls à souffrir de cette manière. Mais pendant des générations et des générations, les chrétiens ont souffert jusqu'au martyr pour la foi en Dieu. Et donc, une partie de l'étau qui sert les chrétiens et qui les pousse à abandonner la foi, c'est la persécution. Mais il y a une autre mâchoire à cet étau aussi. Et là, ce n'est pas la souffrance et la peine qui est imposée par la culture, mais c'est plutôt l'attrait du péché et du mal qui était dans la société. C'est la tentation de se conformer à la vie du monde dans l'Empire romain, une vie qui était plus agréable, plus facile et apparemment qui menait à des meilleures choses dans la vie si on n'allait pas vers les choses spirituelles qui viennent de Dieu. Et si l'auteur aux Hébreux passe beaucoup de temps à encourager les chrétiens à résister aux épreuves, aux tentations, aux difficultés, hein, cette première mâchoire de l'étau, nous allons voir ce soir qu'il y a aussi un avertissement contre le compromis spirituel, contre cette idée d'abandonner la sainteté, la fidélité à Dieu par attrait du péché et du monde. Et comme d'habitude, l'auteur aux Hébreux aime citer l'Ancien Testament, rappeler l'expérience d'Israël dans l'Ancien Testament. Il va se servir des exhortations que Dieu a faites à Israël pour encourager les chrétiens à persévérer dans la foi. Et donc nous lisons Hébreux chapitre 12, des versets 14 à 17. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur, comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il ait cherché avec larmes. » Ici, l'auteur donne 3 exhortations, ou 3 mises en garde, on pourrait dire, qui sont ponctuées par ces mots « recherchez » au verset 14, « veillez » au verset 15 et « veillez » au verset 16. Et ces 3 encouragements ou avertissements, ce sont des paires d'ordre, de commandement qu'il leur donne pour qu'ils puissent rester fidèles à Christ tout au long de leur vie. Et on va juste regarder brièvement ces 3 paires d'exhortations. La première chose qu'il dit, et c'est au verset 14, c'est dit « rechercher la paix avec tous et la sanctification ». Mais il faut réfléchir un peu à cette phrase, cet ordre, de « rechercher la paix avec tous ». Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, moi pas, je suis allé regarder dans les commentaires ensuite, mais ici l'auteur est en train de citer l'Ancien Testament, et c'est le psaume 34 au verset 15, qui dit « Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bon, recherche la paix et poursuis-la. » Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 11, cite ce même psaume. Et c'était l'appel pour la vie des chrétiens, d'être des hommes et des femmes de paix et de rechercher la paix. Non seulement de fuir le mal, de dire non au péché, mais de rechercher la paix. Et c'est très fort, poursuivre la paix. Hein, c'est l'idée, on va faire des efforts pour courir après. Et quand on pourchasse une personne, c'est le même verbe qui est utilisé ici. Bon, soyez des chasseurs de paix. Et ceci devrait nous frapper. Nous sommes des Suisses, pour la plupart d'entre nous. On aime la paix, n'est-ce pas? On aime la neutralité, ne pas être en conflit ou en guerre avec les gens. Et je suis très heureux d'avoir ces valeurs. Mais il ne faut pas oublier, comme on a déjà vu, les chrétiens qui lisent cette lettre sont persécutés. Ils sont en train de souffrir, et pas en train de souffrir pour du mal qu'ils ont fait. Ils sont en train de souffrir injustement. Et pourtant, la réponse à cette souffrance injuste, c'est de poursuivre la paix avec tous. L'auteur ne dit pas « c'est le moment de se révolter », ni de former une bande pour se défendre de ses ennemis, mais de rechercher la paix avec tous. Et cela signifie donc une paix avec ceux qui sont en dehors de l'Église, avec ceux qui sont dans le monde. Et cela fait partie de la vie du chrétien. Dans Romains chapitre 12, les versets 17 à 18, Paul dit aux chrétiens de Rome, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et c'est facile de dire ça maintenant et ici, à nous qui ne sommes pas opprimés et qui ne sommes pas persécutés. Mais il faut se rappeler que le message est valable non seulement lorsque ça va bien, mais aussi lorsque la vie en Christ est difficile et lorsqu'on rencontre l'injustice et la persécution. Que l'appel pour nous, en tant que disciples de Christ, c'est de rechercher la paix et même de poursuivre la paix. Soyez des hommes et des femmes qui ne cherchent pas le conflit ou la victoire sur les autres, mais la paix avec eux. Et en cela, nous montrons que nous appartenons à Dieu. Bon, ça, ce n'est pas l'idée de Paul, ce n'est pas l'idée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cela vient de Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et donc, cette exhortation, ce message s'applique à ceux qui sont du dehors et ceux qui sont en train de persécuter. L'attitude des chrétiens envers eux devait être la même que celle de Christ lorsque lui était opprimé. De chercher la paix, non pas le compromis avec le mal, mais la paix avec ceux qui sont autour d'eux, afin de témoigner Christ, de Christ. Mais bien sûr, il y a une application au sein de l'Église aussi. Hein, tout le monde, cela inclut aussi les frères et sœurs dans la foi. Et de nouveau, cette idée de rechercher la paix, c'est un appel à l'amour et l'unité au sein de l'Assemblée. Et pour revenir à ce que Paul a écrit dans Romains 14, verset 19, il dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle dans le contexte de l'Assemblée. » Et pour nous, il y a cette question, n'est-ce pas? Si nous sommes des gens qui désirent voir Dieu un jour, si nous sommes ceux qui veulent avoir cette vie éternelle, est-ce qu'un des caractéristiques de notre vie, c'est la recherche de la paix avec tout le monde? Est-ce que la paix est visible dans nos propos, notre manière de se parler les uns aux autres, dans notre manière de traiter les autres? Vous savez, nous ne pouvons pas témoigner de Christ qui a appelé le prince de paix si nous ne sommes pas des gens de paix, nous aussi. Et donc pour nous, il y a cet avertissement de nous garder de ce qui peut détruire la paix. Les confrontations malsaines, les commérages, parler dans le dos des gens pour leur faire du mal, les plaintes et les médisances qui ne sont pas là pour faire le bien à l'autre. Mais plutôt vivre des vies qui sont pleines de pardon lorsqu'on nous fait du mal, qui sont des vies pleines de gestes de réconciliation lorsqu'on nous fait du mal. Et une attitude qui impute toujours de bonnes intentions aux autres, même lorsqu'ils font des choses qui ne sont pas bonnes envers nous et qui nous font du mal. De chercher la paix avec ces gens. Et bien entendu, quand on pense à la paix dans l'Église, nous savons que parfois, et l'auteur va en parler un peu plus tard, que des confrontations sont nécessaires, d'accord, pour appeler un bien-aimé, un frère ou une sœur, à la repentance. L'auteur ne dit pas ici, ce qui correspond bien à ma personnalité, éviter toute confrontation avec toute personne dans toutes les circonstances. C'est pas ça, être des gens de paix. Et il ne faut pas oublier non plus que même Jésus lui-même a dit, lorsqu'un frère ou une sœur est dans le péché, il faut aller vers cette personne pour les ramener à la repentance. Mais ces confrontations-là qui ont un besoin d'exister, existent dans le cadre de l'amour et dans le désir du bien pour l'autre, pour fortifier la foi de ceux qui ont besoin d'être fortifiés et pour aussi contribuer à la paix et l'unité dans l'assemblée. Lorsqu'il y a une confrontation, lorsque quelqu'un vit dans le péché, lorsque quelqu'un sème le mal dans l'assemblée ou à l'extérieur, c'est toujours dans cette optique de vouloir le bien pour l'autre. Et cela se fait toujours avec amour et douceur. Donc, parenthèse fermée là, mais nous revenons à cette question. Est-ce que nos vies sont caractérisées par la paix? Sommes-nous des hommes et des femmes de paix? Bon, les chrétiens doivent rechercher la paix, mais ils doivent rechercher aussi plus que cela. Il dit rechercher la sanctification. Et ça, c'est un mot bien biblique, n'est-ce pas? Soyez des gens qui recherchent la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est, la sanctification? J'aime beaucoup le livre de Lévitique, et je trouve qu'il y a meilleure définition ou le résumé de ce que c'est la sanctification se trouve dans Lévitique chapitre 20, le verset 26, où Dieu s'adresse à Israël et dit ceci, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi Yahvé. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Et là, Dieu dit que la sanctification, c'est de vivre pour ressembler à Dieu. Pas en se comportant comme si on était Dieu, mais en reflétant son caractère de justice, de bonté, d'amour, de compassion. Et la sanctification, c'est de commencer de plus en plus à être transformé dans nos vies pour ressembler à Dieu et pour nous de ressembler à Dieu en imitant Jésus-Christ. Voilà la sanctification. Et l'effet de la sanctification, c'est ce que Dieu dit à la fin du verset 26 dans Lévitique 20. Il dit « Je vous ai séparé des peuples pour que vous soyez à moi. » Celui ou celle qui est sanctifié est différent du monde par son comportement, par son appartenance et appartient à Dieu. Pour être plus clair ici, il dit « Si vous n'êtes pas des gens qui sont en train d'être sanctifiés, en train d'être transformés pour ressembler à Jésus, vous ne pourrez pas voir Dieu. Il n'y a pas d'espérance pour vous. » Et il faut souligner donc que la sanctification, cette transformation morale et spirituelle de notre vie pour que nous ressemblions à Christ dans notre manière de vivre tous les jours n'est pas un détail. Ce n'est pas une question secondaire, ce n'est pas facultative. Une vie pleine de péché et de désobéissance à Dieu. Une vie de permissivité morale qui dit « je vais me permettre de pécher parce que de toute façon Dieu va me pardonner » est incompatible avec la vie chrétienne et incompatible avec l'Esprit de Dieu. Et ceux qui décident de vivre de telle vie en prétextant que Dieu va les pardonner quand même n'ont pas l'espérance de voir Dieu. C'est ce que dit l'auteur ici. Il n'y a pas d'autre manière de le comprendre. Dieu désire pour nous une vie pleine de pardon, bien entendu, mais une vie de transformation et de sanctification. De nouveau, je reviens à Romains parce qu'il y a tellement en commun dans cette partie. Mais dans Romains 6, verset 22, en décrivant la vie en Christ, Paul dit ceci. « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Il ne dit pas « ce serait bien si vous aviez pour fruit la sanctification ». Il dit « voilà la réalité de vos vies. Par l'Esprit et en Christ, vos vies, c'est la sanctification. » De devenir semblable à Christ dans cette vie-ci n'est pas facultatif. C'est un commandement absolument nécessaire. Et sans la sanctification, je le rappelle une fois de plus, personne ne verra Dieu. Je crois qu'il faut souligner, en parlant de la sanctification, deux choses importantes. Premièrement, cela nous rappelle que la vie en Christ, c'est plus que d'avoir les bonnes doctrines, les bonnes croyances au sujet de Dieu, même si c'est important. La sanctification, c'est plus que croire les réalités au sujet de Dieu. Et la sanctification, c'est plus que juste d'aller au culte tous les dimanches et à l'étude biblique du mercredi soir, auquel vous êtes tous invités à 19h30 à l'étage, et de participer à la Sainte Cène et aux autres choses que Dieu nous demande de faire. Ces choses sont absolument essentielles, de dire et d'enseigner et de croire la vérité au sujet de Dieu. D'être participant à l'adoration et au culte de Dieu sont nécessaires. Mais la sanctification, ce n'est pas juste ça. La sanctification, c'est une vie de tous les jours, un comportement de tous les jours qui ressemble à celui de Christ. Et si nous avons les gestes religieux, et si nous avons les paroles justes, mais nous n'avons pas une vie qui ressemble à Christ, nous ne sommes pas sanctifiés. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut souligner. On parle ici de la vie quotidienne, pas seulement, même si ça en fait partie, de la vie dans l'assemblée. Mais la deuxième chose, c'est que la sanctification, c'est pas juste le fruit, c'est pas le fruit de notre volonté. Je veux dire, bon, ce matin, je vais être plus sanctifié que hier. La Bible enseigne que c'est l'œuvre de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 13, nous lisons que si vous vivez par la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et nous avons par la sanctification l'espérance de la vie, mais c'est l'œuvre de Dieu en nous. La question pour nous, est-ce que nous allons laisser Dieu agir en nous ou lui résister par amour du péché, du mal et des plaisirs qui ne viennent pas de Dieu? Bon, la vie éternelle demande la sanctification, mais une sanctification qui vient de l'Esprit de Dieu en nous. Et donc voilà ce que nous devons rechercher, la paix et la sanctification. Et est-ce que nous pouvons voir à travers les années Christ qui transforme nos vies? Est-ce que nous avons des relations les uns avec les autres qui sont transformées par le bien que Christ fait en nous? Y a-t-il une sanctification dans nos vies? Ça, c'est ce que Dieu désire de nous. Mais il y a deux choses auxquelles il faut faire attention aussi. Si nous poursuivons, si nous recherchons la paix et la sanctification, il y a deux mises en garde. Au verset 15, il dit « Veillez, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Et j'aimerais rappeler ici que l'auteur s'adresse à des chrétiens. Ils ont cru à l'évangile. Ils ont donné leur vie à Christ, ils ont été baptisés en lui, ils ont le Saint-Esprit. Je suis convaincu que nous ne parlons pas ici à des païens ou des inconvertis. Mais l'avertissement est toujours présent. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Qu'il y a un risque à cause de l'étau qui se resserre autour d'eux d'abandonner. Et ici, de nouveau, il y a un peu cet avertissement bizarre, n'est-ce pas? Une racine d'amertume qui ne doit pas avoir des rejetons parmi eux. C'est quoi l'avertissement ici? Bon, de nouveau, une citation de l'Ancien Testament, où Dieu parle à Israël et il leur enseigne de couper, d'enlever de leur communauté, de leur famille, toute trace d'idolâtrie. Et voici ce qu'il dit, c'est dans Deutéronome 29, le verset 17. « Qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller rendre un culte au Dieu de ces nations-là, en parlant de Canaan. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. » Et Dieu utilise cette image donc de la racine amère ou pleine de poison, qui est ici, ou de l'absinthe, pour parler de ce péché qui se répand à travers les relations, à travers la communauté, parce qu'on tolère l'idolâtrie et que cela passe d'une personne à une autre et va détruire toute la communauté. Et nous ne savons pas, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, si l'auteur pense à un péché particulier ou si c'est en général, ici le péché en général qui est en vue. Mais il est en train d'avertir les chrétiens, il est en train d'avertir l'Assemblée, que s'il y a des péchés qui sont en train de grandir dans la communauté, dans la vie de certains individus ou dans les groupes, ils doivent résoudre ce problème. Ils doivent faire face au péché, appeler à la conversion, parce que sinon le péché peut détruire toute la communauté. Et c'est l'idée donc de cette racine pourrie qui est en train de détruire toutes les plantes. Je parlais avec une de nos voisines au sujet de la vigne que nous avons. Notre vigne est toujours un tout petit peu malade, mais chaque année elle tient le coup, et puis on a des raisins quand même. Mais elle me disait, j'ai un voisin qui a déménagé, la maison est vide, et puis il y a des plantes qui sont en train de pousser, mais elles sont malades dans son jardin abandonné. Et les vignes qui étaient dans le jardin du voisin ont monté le mur, sont redescendus de l'autre côté et ont commencé à pousser dans son jardin. Le problème, c'est que c'était des vignes qui étaient couvertes de moisissures et de maladies. Et toute la terre où ces vignes du voisin ont poussé chez elles maintenant est infectée par cette maladie. Et ces vignes ont commencé à mourir aussi. Et donc, elle a enlevé ces vignes mortes, elle a planté des nouvelles, et de nouveau, c'est la même chose, ils sont morts une fois de plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une racine amère, une racine malade, est venue se planter dans sa terre, et elle ne peut plus rien faire avec. Voilà la mise en garde pour les chrétiens. Ils doivent faire attention à leur propre vie, ils doivent chercher la sainteté individuelle, et ça, c'est le point de départ. Mais ils doivent faire attention aussi de veiller sur la santé spirituelle de l'assemblée. Parce que s'ils laissent un esprit de division, plutôt qu'un esprit de paix, se développer dans la vie de l'assemblée, s'ils laissent certains vivre dans le dérèglement moral, s'ils laissent le péché grandir, ça aura un effet sur toute la communauté. Et il y a ce besoin de responsabilité mutuelle les uns envers les autres, qui ne colle pas vraiment beaucoup avec notre culture, n'est-ce pas? On est plutôt individualiste. Je fais à ma manière, vous faites à votre manière, et on ne se dit pas l'un l'autre quoi faire. Bon, ça, ce n'est pas la vie de l'Assemblée. C'est une recherche de sainteté commune. Et si l'Assemblée veut continuer à vivre, si elle veut persévérer, ils ont besoin de veiller les uns sur les autres, de veiller à ce qu'ils recherchent la sainteté. Bon, nous regardons très rapidement le dernier avertissement, qui est un peu triste, n'est-ce pas, au verset 16 et 17. Il dit « Veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. » Et ici, nous avons ce deuxième cas d'exemple qui peuvent nous faire tomber de la grâce, être coupé de la grâce de Dieu. Et il utilise de nouveau deux mots en parlant de la débauche et de la profanation. Bon, la débauche, vous le savez, mais c'est un mot général pour parler de toutes sortes d'immoralités sexuelles. Tout ce qui est l'immoralité sexuelle en dehors de la volonté de Dieu, bon, ça c'est la débauche. Et une vie d'immoralité est incompatible avec Dieu. C'est aussi simple que cela. Ceux qui sont débauchés ne pourront pas être en communion avec Dieu. Mais il parle aussi donc du profanateur comme Ésaü. Et ce mot profanateur, c'est un, de nouveau, peut-être un peu biblique, qu'on n'utilise pas beaucoup, mais c'est l'idée de tout ce qui est sans Dieu ou sans les choses spirituelles. La profanation ici, ce n'est pas vraiment l'idée de blasphème, mais plutôt l'idée de ce qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est comme on a des objets sacrés et des objets profanes. Les objets sacrés, c'est ce qui appartient à Dieu. L'objet profane, c'est pour l'usage de tous les jours. Bon, un homme ici qui est profanateur ou une femme qui est profanatrice, c'est l'idée qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu, qui ne pense pas aux choses spirituelles, qui ne cherche pas Dieu dans sa vie, qui vit comme s'il n'existait pas. Et ici, l'exemple d'Ésaü est frappant et devrait nous faire peur, n'est-ce pas? Parce que Ésaü, qui dans l'Ancien Testament a vendu la bénédiction du premier-né pour avoir un plat parce qu'il avait faim, il le regrette énormément, n'est-ce pas? Et il vient vers son père et il pleure, il supplie son père à genoux, il dit « Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ». Et son père dit « Non, j'ai rien, aucune bénédiction à te donner ». Et la bénédiction qu'il finit par lui donner, en fait, c'est presque une malédiction qui vient. Et on se dit « Waouh, est-ce que l'auteur ici, est-ce que la Bible enseigne donc que si je commets l'immoralité sexuelle en tant que chrétien, il n'y a plus de pardon pour moi ?» Ou est-ce qu'il est en train d'enseigner ici que si les chrétiens se détournent de Dieu pour un temps, qu'il n'y a plus d'espérance de repentance pour eux? Parce que même s'ils supplient Dieu à genoux, avec beaucoup de larmes, que Dieu ne leur pardonnera pas. Il n'a plus de pardon à leur donner. Bon, personnellement, je ne crois pas que ce soit cela qui est en vue ici. Et pour certaines raisons. Premièrement, il n'y a aucune mention de l'apostasie dans ce passage. Comme j'ai dit, le mot profanateur, ça ne veut pas dire l'apostasie, le reniement de Christ. Mais c'est l'idée d'une vie qui ne cherche pas Dieu, ne le recherche pas. Et nous savons, de différents passages dans le Nouveau Testament, que l'immoralité sexuelle est très grave, d'accord, et ceux qui vivent dans le péché sexuel n'ont pas de communion avec Dieu, mais que la repentance est possible, y compris pour les chrétiens. Même Paul, dans 1 Corinthiens 5, il dit « Il y a un homme qui commet une immoralité terrible dans l'assemblée, excluez-le de l'assemblée pour qu'il puisse revenir et se repentir. » Donc, on ne parle pas ici de péché qui ferme la porte au salut d'une manière définitive. On n'est pas en train de dire, bon, il y a certains péchés, hop, vous l'avez commis, vous croyez en Dieu, vous vous repentez, mais c'est fini, dommage, vous allez en enfer, il n'y a plus de possibilité de repentance. L'avertissement ici est quand même sérieux, malgré cela. Il est en train de dire, il y a un chemin qui peut nous séparer de Dieu, même si nous sommes en communion avec lui aujourd'hui. Et il y a un moment où il sera bel et bien trop tard de nous repentir et de revenir vers lui. Et ma conviction, c'est que c'est au moment du jugement dernier, que c'est ceux qui se sont détournés de Dieu pour suivre le monde, pour vivre dans l'immoralité. S'il n'y a pas de repentance pour eux, il y a un moment où il sera trop tard. Et ils seront face à Dieu, et quelles que soient les paroles qu'on prononce à ce moment-là, bon, Dieu dira « c'est trop tard ». Et cela revient à ce qu'on a vu dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement qui est là. Donc, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ceux qui se servent de ce passage pour dire « si vous commettez des péchés suffisamment graves en tant que chrétien, vous perdez le salut et c'est impossible de vous repentir après cela. » D'ailleurs, si ça c'était vrai, et il y a des gens qui l'ont cru dans l'histoire du christianisme, qu'est-ce qu'on fait si on croit ? Bon, on retarde la conversion au dernier moment possible, n'est-ce pas ? Comme ça, on est sûr d'avoir toute la grâce de Dieu. Parce que si on se convertit tout de suite et puis on chute trop gravement, bon, c'est fini, n'est-ce pas ? Et donc, ce serait un encouragement à ne pas vivre avec Dieu avant les derniers instants, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas du tout cela que Dieu veut. Mais il y a un avertissement sérieux quand même. C'est que nous ne pouvons pas vivre comme si Dieu n'existe pas, si nous sommes en Christ. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché et nous attendre à avoir le pardon de Dieu. Il y a une recherche de sainteté qui est nécessaire. Je parlais avec un ami et cela m'a énormément attristé. Ça fait des années déjà. Mais il croit en Dieu, mais il a quitté l'Église, il vit comme le monde. Et j'ai dit, mais tu ne penses pas à Dieu et à la foi et à Christ ? Il dit, je sais que mes décisions ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Mais je veux faire mes propres expériences, vivre ma propre vie, et je peux toujours revenir plus tard. N'est-ce pas une perspective terrifiante ? Parce que nous ne savons pas où va notre vie. Nous ne savons pas quand Christ va revenir. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Nous avons seulement aujourd'hui que nous pouvons donner à Christ ou non. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'il faut lire ce passage et prendre l'exemple d'Ésaü et d'autres. Nous voulons prendre les décisions qui correspondent à la volonté de Dieu et à la sanctification. Il y aura un jour où c'est trop tard. Et donc pour nous qui sommes déjà chrétiens, l'appel c'est de marcher dans la sainteté, de rechercher la volonté de Dieu tous les jours. Je suis convaincu pour ceux qui pêchent, et nous le faisons, il y a toujours le pardon qui est offert par Dieu si nous nous repentons. Mais nous vivons en sachant qu'un jour ce sera trop tard, soit par la fin de notre vie, soit par le retour de Christ. Donc vivons avec cette recherche de sainteté. Bon, Dieu nous offre quelque chose de mieux qu'il n'a offert à Ésaü, plus qu'une bénédiction du premier-né. Il nous offre la vie éternelle auprès de lui, en Jésus-Christ. Que faisons-nous pour tenir à ses promesses ? Et l'appel pour nous, c'est de chercher la sanctification et la paix, de veiller les uns sur les autres dans l'assemblée, et de veiller sur notre pureté et de garder les yeux fixés sur les choses de Dieu. Et sur Christ tous les jours.